RFI Matin.
8h44 à Paris, RFI sur votre poste de radio, sur notre appli, sur notre chaîne YouTube en direct. Merci d'être à l'écoute ce matin. On sera en Éthiopie dans quelques minutes à l'occasion des fêtes de Pâques et cette tradition lors du Vendredi Saint. Les orthodoxes du pays préparent le goulban, un plat très simple à base d'eau, de blé, de pois, censé à rappeler la pauvreté dans laquelle vivait le Christ. On découvrira ensuite les têtes d'affiche de la semaine de Denise Epoté, la chronique 100% création sur la mode et le design, tout cela avant un nouveau journal, mais d'abord le reportage international. La guerre commerciale de Donald Trump continue d'inquiéter les marchés mondiaux et de nombreux secteurs, comme celui de l'automobile. Les voitures importées sont taxées de 25% désormais et cela tombe au pire moment pour l'allemand Volkswagen qui est déjà en difficulté. Il va réduire ses effectifs de 35 000 personnes d'ici 2030 pour ses 10 marques. Pascal Thibault s'est rendu au siège de Volkswagen à Wolfsburg, ville du nord entre Berlin et Hanovre. Reportage.
À l'arrivée à la gare de Wolfsburg, la vue est imprenable sur le gigantesque site de Volkswagen, l'équivalent de 650 stades de foot. De l'autre côté, la ville avec son charme d'après-guerre, très discret. En cette journée printanière, de nombreux retraités prennent le soleil sur des bancs de la zone piétonnière. Ils ne sont pas menacés par les droits de douane, mais concernés. Volkswagen fait partie de leur ADN, comme pour cet Italien d'origine, Nicola Motta, qui a fait toute sa carrière dans l'entreprise.
Volkswagen, c'est tout pour moi. Regardez le dos de mon téléphone. Là, c'est mon village en Calabre et en dessous, l'usine de Wolfsburg.
Le retraité est fier de ses deux fils, tous les deux ingénieurs chez Volkswagen à Wolfsburg et en Chine, mais également inquiet pour eux.
Si ça va mal pour Volkswagen, ça nous concerne aussi. On s'inquiète avec ce président américain. Nous n'avons pas confiance en lui. Le matin, il dit blanc, à midi, noir et le soir, autre chose.
L'ingénieur Thorsten Bleibaum travaille depuis 30 ans chez Volkswagen. Pour lui, la crise sociale de l'automne dernier était bien plus grave que les droits de douane américains d'aujourd'hui.
Je ne peux pas confirmer dans mon entourage le pessimisme ambiant dans les médias actuellement, même s'il peut être justifié. Pour beaucoup, ces droits de douane, c'est beaucoup trop abstrait. Je ne crois pas que cela soit si dramatique.
Au café Pinocchio, Silvestro Gurrieri sirote un espresso. Ce Sicilien est arrivé dans les années 70 à Wolfsburg, où il a fait toute sa carrière. Membre du Parti social-démocrate et du puissant syndicat IG Metall, Volkswagen est sa deuxième famille.
Ces droits des douanes de Trump sont une catastrophe totale. Ça nous frappe fortement et on s'inquiète. Volkswagen a surmonté la crise de l'an dernier et maintenant, ces problèmes surgissent sur lesquels nous avons peu d'influence.
Alexander Jordan est le nouveau député de la circonscription. Ce chrétien démocrate a fait carrière chez un sous-traitant de l'industrie automobile et connaît bien le secteur.
Les inquiétudes sont palpables, même si la situation reste calme. Il n'y a pas de conséquences directes pour l'instant après l'introduction de ces droits de douane, mais elles se profilent à l'horizon.
Les droits de douane de 25% en vigueur depuis le début du mois pour les voitures exportées aux États-Unis s'appliqueront en mai à 150 produits fabriqués par les sous-traitants du secteur automobile. Pascal Thibault, Wolfsburg, RFI.
Et vous pouvez retrouver et écouter ce reportage international sur notre site www.rfi.fr ou bien sur notre application Pure Radio.
RFI, toute l'actualité, Marion Kazanov.
8h48 à Paris, à la une de l'actualité en ce dimanche 20 avril. L'Ukraine accuse la Russie de violer le cessez-le-feu. Moscou avait annoncé hier à l'occasion des fêtes de Pâques une pause dans les combats. Mais le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a signalé des assauts et des tirs d'artillerie russes. Une alerte anti-aérienne a aussi retenti hier à Kiev. Résistons à la tyrannie, un slogan crié hier aux États-Unis dans des manifestations contre le président Donald Trump. Des milliers de personnes ont défilé dans plusieurs villes, à Washington, à Austin, à San Francisco. Ils ont protesté surtout contre la politique anti-immigration de la Maison-Blanche. Washington qui se félicite de progrès avec Téhéran sur le dossier du nucléaire iranien. Deuxième session de discussion hier à Rome et une troisième est prévue la semaine prochaine à Oman, médiateur dans ce dossier. En Israël, le Premier ministre écarte toute possibilité d'une fin de la guerre à Gaza et estime qu'il peut ramener les otages détenus dans l'enclave sans céder, je cite, au diktat du Hamas. Le Hamas a refusé cette semaine une proposition israélienne de trêve. En RDC, un silence tendu du côté du gouvernement après l'arrivée surprise de l'ancien président Joseph Kabila vendredi à Goma. Ce dernier est censé prendre la parole dans les prochains jours. Son entourage promet un discours qui fera date. Et puis les catholiques du monde entier espèrent apercevoir le pape en ce jour de Pâques. Très affaibli ces dernières semaines, le souverain pontife pourrait faire une apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre pour donner la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Des millions de chrétiens célèbrent donc Pâques aujourd'hui. Pâques qui tombe au même moment et c'est rare pour les catholiques et les orthodoxes, chacun avec ses propres traditions et elles varient aussi selon les pays. Direction l'Éthiopie pour le reportage Afrique où la veille de Pâques, les orthodoxes préparent le goulban, un plat traditionnel que l'on ne mange qu'à ce moment de l'année. Marlène Panara s'est invitée dans la cuisine de Daba à Addis Abeba pour suivre la préparation du goulban.
Dans sa cuisine, Daba, grand foulard blanc sur la tête, mélange à la main les grains de blé et les pois qui ont séché au soleil depuis plusieurs jours. D'un geste, elle les plonge dans l'eau bouillante. Le goulban est en préparation.
It's only water, wheat.
On met juste de l'eau, du blé et des pois, on ne rajoute aucune épice. Ma grand-mère et mon arrière-grand-mère le préparaient déjà comme ça. On le mange ensuite l'après-midi quand c'est froid.
Comme des millions d'Éthiopiens, tous les ans, à la veille du Vendredi Saint, cette vieille dame de 75 ans prépare cette spécialité des fêtes de Pâques. C'est un plat volontairement simple, symbole du dénuement de Jésus-Christ.
Je me lève tôt pour cuisiner et cette recette me prend une heure. Cela fait partie de notre tradition.
Le jeûne végétarien qui précède Pâques et la prière font aussi partie des coutumes de cette fête, l'une des plus importantes de l'année pour les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie.
On se prosterne au moins 200 ou 300 fois. Je prie pour moi d'abord, pour mes enfants ensuite, puis pour toute ma famille et enfin pour tous les Éthiopiens, pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui sont malades, qu'ils puissent retrouver la santé. Je prie pour qu'ils vivent en paix.
Malgré la fin de la guerre au Tigré en novembre 2022, la région connaît un regain de tensions. La lutte politique qui oppose deux factions du parti de ce territoire du Nord, le TPLF, fait craindre la reprise d'un conflit. Des violences frappent aussi la région Amhara, au nord d'Addis Abeba. Dans ce contexte, les fêtes de Pâques offrent un répit bienvenu.
Toutes les personnes qui vivent en Éthiopie veulent vivre en paix. Nous devons être bons et de bons amis. On essaye d'appliquer les 10 commandements, mais parfois c'est difficile, car nous ne sommes que des êtres humains.
En Éthiopie, environ 40% de la population, soit 46 millions de personnes, est orthodoxe. L'islam est la seconde religion du pays, regroupe 33% des habitants. Marlène Panara, Addis Abeba, RFI.
Le reportage Afrique à retrouver, à réécouter sur notre site rfi.fr. Comme tous les dimanches, place à présent aux têtes d'affiche de Denise Epoté. Denise Epoté avec Nicolas Brousse.
Bonjour Denise Epoté.
Bonjour Nicolas Brousse.
Vos deux têtes d'affiche sont les lauréats de l'African CEO Awards, décernés cette semaine dans le cadre du JITEX Africa, le premier salon de la tech africaine qui se tient à Marrakech. Le premier d'entre eux est diplômé en génie logiciel de l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes de Rabat. Hassan Jibar dirige le programme Digital Open Innovation de la compagnie aérienne nationale, impliquant une centaine de start-up à travers le monde. Une transformation qui lui a valu un African CEO Award dans la catégorie leadership.
Unique représentante du continent au sein de l'alliance One World, l'une des alliances aériennes les plus prestigieuses, la compagnie aérienne marocaine se devait de relever les défis stratégiques en favorisant l'innovation grâce à une collaboration avec des start-up et des universités. Dans un marché de l'aéronautique civile de plus en plus concurrentiel, il est important de prendre en compte les besoins des clients afin d'améliorer leur expérience du voyage. 1000 startups issues de 40 pays ont postulé pour le programme Open Innovation, preuve de l'attractivité et de l'ouverture internationale de la compagnie. À la tête de la direction digitale, Hassan Jibar accompagne 20 solutions innovantes parmi lesquels Option ZR, qui permet aux clients d'acheter ses titres de transport avec plusieurs cartes ou de les faire payer par plusieurs personnes. C'est également grâce à l'IA que les erreurs humaines dans les tâches administratives ont été réduites, la satisfaction client a augmenté de 10% et l'autonomisation des processus a fait baisser de 15% les coûts de fonctionnement de la compagnie tout en réduisant son empreinte écologique. Le challenge Cannes 2025 vise à optimiser l'expérience des spectateurs en intégrant des technologies telles que la réalité augmentée pour offrir une expérience mémorable avant et pendant l'événement.
Voilà pour Hassan Djibar. Lui est originaire de Tunisie. Kayoum Djedidi possède un doctorat en télécommunication obtenu à l'Institut National de Recherche Scientifique de Montréal, un diplôme d'ingénieur en microélectronique et système embarqué de l'Institut supérieur d'informatique et de mathématiques de Monastir en Tunisie, ainsi qu'une licence en électronique et automatisation délivrée par l'École supérieure des sciences et technologies d'Amamsous. Sa start-up Orb conçoit des robots quadrupèdes made in Tunisie. Kayoum Djedidi a remporté l'African CEO Award de l'innovation.
Démocratiser la robotique, c'est l'objectif que s'est fixé Kayoum Djedidi en créant Orb Studio, une plateforme cloud open source qui conçoit et déploie des systèmes de robotique en partenariat avec des universités tunisiennes et suisses. Cela a permis de réduire de 60% le temps de développement et de prototypage et d'impliquer la communauté active de testeurs. Orb Studio se positionne comme le futur standard dans l'éducation, l'industrie et la recherche. En 2024, Kayoum Djedidi a développé un pipeline sécurisé destiné à simplifier le déploiement de l'intelligence artificielle dans des systèmes robotiques embarqués. Le passage à l'échelle prévoit un déploiement en Afrique et au Moyen-Orient grâce à des partenariats. D'ici fin 2025, Kayoum Djedidi compte étendre sa gamme de kits robotiques quadrupèdes et bras manipulateurs avec l'ouverture de hubs pilotes en Tunisie, au Canada et au Qatar.
Denise Epoté et ses têtes d'affiche, elle était avec Nicolas Brousse.
RFI à Paris, 89 FM.
100% création, la chronique de la mode et du design. Aujourd'hui, on rencontre Nina Bornier, originaire de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, créatrice d'une marque de mode engagée aux inspirations occidentales et ouest-africaines. Maria Afonso l'a rencontrée lors du rendez-vous annuel de la mode afro à Paris, rendez-vous qui s'appelle The Défilé.
Lorsqu'on est dans la mode, ça nous permet d'avoir confiance en soi, l'acceptation de ses origines, son histoire. Donc la mode est un vecteur de transmission de notre identité.
Nina Bornier, créatrice de Niantin Banini.
Niantin, c'est mon premier prénom africain. Niantin, l'avenir est radieux. Mon prénom c'est Nina. Tous mes proches m'appellent Nini. De Niantin Banini, ça fait GBN. Ce sont mes initiales. Niantin, bienvenue. Je m'appelle bienvenue aussi, Nina.
Née à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, Nina Bornier a vécu au Sénégal, puis en France. Cette femme engagée a suivi un parcours académique brillant, en droit, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, avant de se tourner vers le secteur immobilier et la gestion de patrimoine en France. Mais au fond d'elle, il y a toujours eu un rêve de petite fille. En 2021, lors d'un voyage au Togo, Nina Bornier décide de lancer sa marque Niantin Banini, alliant ses racines africaines et son expérience occidentale.
Lors d'un voyage au Togo, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pays. J'ai été marquée par ce côté encore humain et j'ai trouvé mon identité dans cette culture togolaise. J'ai décidé de poser mes valises et j'ai créé mon entreprise à Lomé. Aujourd'hui, j'ai 20 collaborateurs au Togo et en France qui travaillent autour de la marque. Je suis la directrice de création et à mes côtés, j'ai mon frère. On tient ça de notre maman, le dessin, ce côté artistique.
Les vêtements de Niantin Banini reflètent la volonté d'allier l'Afrique et l'Occident, notamment à travers le choix des matières comme la soie, le pagne baoulé, pagne traditionnel de Côte d'Ivoire, le coton et la production locale au Togo. Nina Bornier aime les matières faciles à vivre.
J'aime travailler la soie, viscose, des pagnes baoulées tissées de la région de Yamoussoukro, d'où je suis originaire. Je crée mes motifs et je soumets aux artisans. on choisit les fils ensemble, ils font le tissage, on fait des prototypages. Ce mélange avec le tissu dit occidental, ça fait un rendu magnifique, à fois occidental que je prône. J'aime les matières fluides, faciles à porter, qui sont respirables. L'élégance, ça passe aussi par être bien, et non seulement dans le vêtement, mais dans le tissu également.
Retrouvez l'univers de Nina Bornier sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio. La chronique 100% création avec Maria Afonso. Restez avec nous sur RFI. Dans quelques secondes, c'est le retour de l'actualité internationale, un nouveau journal avec Martin Guez.
RFI à Tuléar, 96 FM.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Dans notre série du mois d'avril sur l'histoire des grands fleuves d'Afrique, passage sur le fleuve Niger, le Djoliba, fleuve des empires à l'aura intemporelle, de la divinité Pharo qui veille aux villes repères comme Djéné, Niamey ou encore la perle du désert Tombouctou, je vous raconte le fleuve des fleuves.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU. Sur RFI.
Religion du monde. Véronique Guémard.
Dimanche 20 avril, les chrétiens célèbrent Pâques, qui marque la résurrection du Christ, juste après la Semaine Sainte. En cette année 2025, la date est commune à tous les chrétiens. Reportage et décryptage auprès de catholiques et d'orthodoxes sur cette fête de Pâques qui constitue le cœur de la foi chrétienne.
Religion du monde. Véronique Guémard.
Tout à l'heure, à partir de 10h10 TU.
RFI.